Comment les optimistes voient-ils le monde? Quelles qualités cultivent-ils? Comment s'entourent-ils?
Rien ne résiste à une idée. Cette idée que quelque chose qui n'existait pas il y a quelques secondes puisse changer le cours des choses est assez magique et me fascine.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up. 100% optimiste, 100% énergie.
Bonjour, vous êtes dans Very Good Vibes et nous parlons des belles aventures entrepreneuriales. Vous qui voulez le succès, modélisez-vous sur ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, c'est Raphaël Deandréis, PDG du Havas Village et chairman du réseau Havas Créative qui nous emmène sur ce chemin de la réussite.
Christelle Cronier.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Est-ce que l'optimisme pour vous, c'est un passage obligatoire ou pas vers la réussite?
Je vois pas comment on peut faire sans. Si on se lève pas le matin en se disant que voilà, il y a des choses bien qui vont arriver, on se lève pas. Donc je pense que c'est indispensable. Il faut pas que l'optimisme.
Ouais.
Parce qu'il faut un peu de lucidité et même de paranoïa. Mais à la fin, l'optimisme doit tout emporter.
De paranoïa, d'anticipation, quoi.
D'envisager, vous savez, cet adage qui dit, voilà, espérer le meilleur et se préparer au pire. Et je pense que, voilà, le management, c'est vraiment ça. Alors, on n'est pas en train de mener des guerres ou des batailles avec des vrais enjeux de vie ou de mort. Mais en revanche, les mécanismes sont, à mon avis, à peu près les mêmes.
Vous êtes le fils d'un éditeur, si j'ai bien compris.
Oui, vous avez bien compris, très juste.
Est-ce que vos parents vous ont donné ou pas le goût d'entreprendre? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous?
Alors, ma mère était entrepreneuse,
ouais.
Mon père était entrepreneur, ma femme était entrepreneuse,
okay.
Et donc moi je suis salarié. Voilà, parce que j'ai bien observé.
que c'était trop dur.
Voilà, dans l'entreprise d'un très grand entrepreneur qui est Vincent Bolloré.
Ouais. Mais
l'entrepreneuriat pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce qu'il y a de plus difficile et tout le reste à côté est assez facile au fond. Donc je ne suis pas un entrepreneur et je prétends pas l'être. Je suis ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans le jargon un intrapreneur, c'est-à-dire à l'intérieur d'une organisation.
Vous bougez.
Je bouge et j'essaye de faire bouger voilà, l'organisation elle-même et pas juste moi.
Les lignes.
Les lignes et puis surtout ne pas embarquer un projet, des projets, des gens, des entreprises, des filiales et pas juste une carrière, j'espère.
Quel est le mot qui vous définit?
Alors le mot que j'aime le plus, en tout cas, c'est le mot idée.
Ah.
Voilà. Et profondément, c'est-à-dire que je trouve que c'est rien ne résiste à une idée. Et donc, et pourtant, l'idée, quand on l'a pas eue, elle n'existe pas. Donc, cette idée que quelque chose qui n'existait pas il y a quelques secondes puisse changer le cours des choses est assez magique et me fascine.
De l'importance de la créativité dans les entreprises. Vous, je sais que vous à chaque fois, vous essayez de trouver des nouvelles idées, justement. Vous avez été un des pionniers du digital au sein de BETC. Enfin, d'abord TBWA, on va partir dans l'ordre. Dites-moi.
Oui, écoutez, la créativité, elle est fondamentale. Après, la créativité, elle est d'autant plus forte qu'elle prend appui sur un socle logique du raisonnement. C'est-à-dire, nous, on est un peu comme des architectes. C'est-à-dire, si on a des idées d'immeubles incroyables, mais qu'ils s'écroulent à la premier claquement de porte, ça ne va pas très loin. Donc, tout ce qui est magique, c'est ce que d'autres avant moi ont appelé les saltimbanques et les géomètres. Et donc, c'est évident qu'on doit toujours dialoguer entre des raisonnements, des faits, et puis en même temps, à un moment donné, on désobéit à la seule logique pour essayer de trouver des petits pas de côté. Et parfois, c'est magique.
C'est en désobéissant que BETC a été classée la deuxième agence la plus créative du monde, quand vous en avez pris finalement les rênes.
Alors BETC, qui est une agence magnifique dans laquelle j'ai travaillé très longtemps et qui est fondée par Mercedes Serra et Rémi Babinet, donc je ne voudrais pas m'attribuer tout chez BETC, mais oui, à cette époque-là, avec Stéphane Xiberas, je pense que ce qu'on a su faire pour aller si loin en créativité, et ça continue d'ailleurs chez BETC, c'était être capable de désobéir aux choses trop conventionnelles et d'avoir de préférer parfois faire... une grande création qu'une grande réunion, parce que souvent...
Ça me plaît, parce que moi, je suis pas une fan des longues réunions.
Oui, mais si vous avez pas peur de déplaire à un moment donné, c'est quand même très, très rare de faire quelque chose d'étonnant. Donc, il n'y a pas de religion, de la rébellion, ça n'aurait aucun sens dans des métiers comme les nôtres. Mais en revanche, savoir à quel moment on désobéit aux usages, à ce qui a déjà été fait, c'est évident que sans ce petit moment un peu abrasif... on ne peut jamais emmener une idée très loin.
Au Havas Village, vous avez 2500 talents dans toutes vos agences.
Oui.
C'est comme ça qu'émergent les idées.
Alors,
entouré.
Alors, d'abord, les idées sortent de tête. Et donc, une des façons d'avoir de bonnes idées, c'est d'avoir
des bonnes têtes
dans une entreprise. Après, la complexité de la quantité, si j'ose dire, c'est que si vous mettez 2500 personnes en batterie, voilà, dans un énorme hangar, c'est juste destructeur. En revanche, si derrière ça, vous arrivez à articuler tout ça en quelques grandes agences et une quinzaine de labels très pointus sur des domaines digitaux, performance, événementiel, vous avez un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez la quantité, c'est-à-dire plein de gens brillants et très différents qui gambergent, et puis vous avez aussi des gens focalisés avec un périmètre défini, avec voilà, qui savent, qui voient un peu le bout de leur bateau et qui sont pas dans l'abstraction. Et donc je crois que le Havas Village réussit bien ça depuis quelques années.
En même temps, il y a le monde qui change, donc j'imagine que en ce moment vous êtes au taquet pour en fait réadapter la communication, arriver à être au plus juste.
C'est exactement ça. Alors nous, c'est très simple. On se dit que le patron, c'est pas le patron, c'est pas le client, c'est le consommateur. Et donc quand vous vous dites que le consommateur, de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est lui qui décide s'il aime pas, s'il achète pas, s'il trouve ça élégant ou moche, s'il trouve ça respectueux ou au contraire intrusif. Eh ben, généralement, vous prenez des bonnes décisions. Vous n'avez pas forcément des bonnes idées tout le temps, mais vous prenez à peu près tout le temps des bonnes décisions. Donc, nous, on a la religion du consommateur, qui est aussi d'ailleurs un citoyen, un père ou une mère de famille. Voilà, il est plein de choses à la fois aujourd'hui, ce fameux consommateur. Et donc, c'est vrai que nous, on a une assez bonne compréhension du fait qu'on peut pas le réduire à un porte-monnaie. Et ça, c'est ce qu'on appelle...
Rester humain.
Rester humain, et nous, on veut mettre du sens partout. Notre vision d'entreprise, c'est « make a meaningful difference ». Ça veut dire, s'il n'y a pas de sens, les gens ne vous suivront pas longtemps.
On est d'accord. C'est inspiré de The Annex aux États-Unis. Vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Alors, The Annex, qui était au départ une expérience qui a été initiée à Chicago et qui aujourd'hui est à Atlanta, à Miami, et on va annoncer, je pense, bientôt d'autres ouvertures, c'est mettre, raisonner différemment, mettre des influenceurs, des gens qui sont génétiquement nés dans les réseaux sociaux, qui en ont les codes, la compréhension, les usages.
Les jeunes
et parfois des moins...
Donc, ils ont 12 ans, en fait.
C'est illégal, mais c'est moins cher. On a donc des influenceurs qui ont incroyablement compris comment tout ça marchait. Et on essaye de les mettre directement en contact avec des marques. Et là, le rôle de l'agence, il est différent. L'agence devient, un metteur en scène, fait en sorte que les choses soient architecturées, soient stratégiques, mais ne se met pas au milieu, créer les conditions d'une collaboration à trois entre un influenceur plutôt d'obédient, voilà, qui arrive avec son bagage culturel, une marque qui arrive avec ses problématiques et elle aussi, au fond, son héritage culturel, et puis une agence qui fait en sorte que tout ça ne soit pas juste des coûts, mais compose un tableau stratégique cohérent dans la durée.
Vous êtes passé par des gros postes, voire très gros postes. Alors, des titres exécutif, vice-président de division TV payante Canal+, je suis obligée de le dire parce que c'est trop long.
Ouais.
CEO Havas Media Group France, président Havas Productions, aujourd'hui président d'Havas Village. Vous avez eu un parcours classique en tant que salarié ou vous avez le sentiment d'avoir pris beaucoup de risques dans votre vie ?
Alors là encore, je pense pas avoir pris les vrais risques qui sont les risques des entrepreneurs.
Ouais.
Sauf quand j'accompagnais ma femme renégocier son découvert.
Quelle marque de vêtements, Zef ?
Ouais, qui avait ça, chez son banquier, qu'il a vendu depuis. Donc là, j'ai compris ce que c'était que les vrais risques, et donc le reste n'en est pas. Pour autant, oui, en termes de... pas de carrière, mais de choix personnel, c'est vrai qu'à l'époque, quitter BETC pour aller chez Canal+, était un risque. D'ailleurs, ça n'a pas été que facile, même si je m'y suis énormément amusé. Ensuite, repartir dans les médias, alors que je n'avais jamais fait dans le groupe Havas, c'était encore un risque, même si j'avais toute la bienveillance de ceux qui m'ont fait confiance, et Yannick Bolloré en particulier. Et aujourd'hui, je prends d'autres métiers que je connaissais pas avant, plein de métiers.
Vous apprenez sur le tas ?
J'apprends sur le tas et surtout, je pense être aujourd'hui capable de détecter les grandes logiques des choses. Ne jamais oublier qu'il y a un consommateur ou un téléspectateur ou un ce que vous voulez au bout, et c'est toujours le même. Et puis, je pense avoir une bonne capacité à déceler les talents et à les faire travailler ensemble. Je n'y arrive pas toujours, mais il me semble que ça, c'est plutôt un truc que je réussis assez bien. Donc, ma réussite est sans démagogie, vraiment celle des gens qui m'entourent.
Ça fait partie des qualités essentielles d'un entrepreneur, savoir bien s'entourer. Et quelles sont les autres qualités, selon vous, qu'il faut avoir pour réussir ?
C'est difficile de donner des recettes comme ça. Savoir bien s'entourer, c'est évident. Surtout quand vous, enfin, si vous êtes un artisan tout seul dans votre, voilà, vous êtes un ébéniste et que vous faites une commode par mois, bah, vous avez besoin de personne d'autre que de votre talent. Dès lors que vous voulez,
c'est quelqu'un qui sait manier les chiffres.
Non, mais dès lors que vous voulez, voilà, agir sur des surfaces importantes, ouais. De toute façon, il faut du talent autour. Après, nos métiers sont des métiers que de matière grise. Nous ne dépendons que de notre capacité à faire vivre des matières grises chez nous, à ce que les gens y soient heureux et envie de se développer, envie de rester, de faire venir les copains. Donc oui, ça me paraît l'élément discriminant de la réussite d'un chef d'entreprise plus que d'un entrepreneur, parce que ce mot est trop important pour que je me l'attribue.
Mais derrière toutes les réussites, il y a quand même des hommes, parce qu'on parle comme ça de réussite facialement, mais derrière il y a quand même beaucoup de boulot, et puis surtout, nous, ce qu'on aime bien montrer, c'est qu'il y a des valeurs et puis des chemins qu'on suit. Peut-être on va dans un certain chemin où les autres ne seraient pas allés, et pourquoi et comment. Alors vous, quelles sont vos valeurs pour avoir avancé comme ça?
Je pense que quand j'aurai terminé ma carrière, on pourra dire que j'étais quelqu'un de franc. Je sais pas si j'ai toujours été le plus rond, mais en tout cas j'aurais été quelqu'un de franc et j'aurais été quelqu'un de fiable. Donc moi, il me semble que c'est très basique ce que je dis, mais faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait.
Ah oui, moi j'y crois ça. Mais on voit pas beaucoup ça en entreprise.
Non, mais je sais pas, mais je pense pas que ce soit non plus très original, mais je pense qu'aujourd'hui avoir une franchise et de la fiabilité, je pense que c'est cohérent. Après, si on peut mettre un peu de talent sur tout ça, ben c'est pas plus mal. Ça, je laisserai la personne qui écrira mon discours de départ à la retraite juger si j'en ai eu ou pas.
Me parler de son enterrement.
Non, quand même, enterrement aussi.
C'est sympa.
Ça viendra.
Quelles sont les croyances qui vous ont accompagné sur le chemin, si vous avez des croyances particulières, croyances positives évidemment, parce que les négatives.
Non, mais je suis pas un grand mystique, mais je crois vraiment, et encore une fois, je me répète un petit peu, mais à la force du talent. Et le talent, il n'y a pas écrit talent sur les gens qui en ont. Donc le talent, il peut ne pas exister ou être sans limite selon l'environnement dans lequel vous le mettez. Donc identifier du talent, en avoir soi-même si possible. Ça peut aider. Voilà, c'est magique. Et puis ensuite, faire travailler des talents ensemble, c'est encore plus formidable. Et généralement, le talent est un peu encombrant. L'obéissance, c'est plus facile. donc mettre des gens très talentueux, travailler ensemble, c'est une chimie. Ouais. Et donc ça, je crois que le talent, c'est une croyance profonde que le talent peut presque tout, voire tout. Et enfin, un problème. Je sais pas quoi, si on est face à des maladies ou des choses. Ouais. Voilà, le talent du médecin, à un moment donné, il est quand même confronté aux lois de la nature, mais dans nos métiers, qui sont quand même des métiers, on va dire, superficiels et faciles, même s'ils sont pas faciles à faire, ils sont faciles à vivre, je pense que le talent, c'est magique. Donc, tout est orienté dans ma vie autour de ça.
Qu'est-ce que vous transmettez en premier à Chiara, Inès et Joseph, vos enfants?
Ah ben, vous avez bien travaillé.
Bien fouillé.
Je sais pas, je crois qu'on travaille, on parle beaucoup valeur travail à la maison, un peu trop. Je pense qu'ils doivent avoir l'impression d'être en training depuis qu'ils ont 3 ans, c'est un peu probablement un jour ils m'enverront balader. Non, mais ça peut être des formes de travail différentes. Mais le fait que ça, et puis une forme d'éthique et de civisme, on ramasse les bouteilles en plastique sur la plage avec mon fils, quand on trouve des trucs comme ça.
De tout, ils vont faire de l'économie durable.
Tout bête. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Je leur souhaite d'être heureux dans ce qu'ils feront. Mais je pense que leur génération ne fera peut-être pas exactement les mêmes choses que nous.
Ouais. Est-ce que vous avez une routine matinale particulière?
Absolument, je suis hyper routinier. Donc je quitte ma maison à 7h15 tous les matins avec ma petite mallette. Je sors de chez moi et je traverse la rue. Et je vais au Petit Bar, qui est un petit bistrot qui n'a pas bougé depuis les années 60, où je prends mon expresso allongé en lisant Le Parisien, Le Figaro et Les Échos qui sont dans ce petit bar. Et je discute avec mes copains qui sont là aussi le matin, qui font des métiers très 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 différents du mien. Et on discute de tout, de la politique, du foot. Voilà. Et moi, si j'ai pas ça pour démarrer la journée, je la démarre un peu de travers.
Ouais, je fais la même chose, donc je suis sur la bonne voie.
Je sais pas,
avec un modèle comme vous.
Ou moi sur la bonne, avec un modèle comme vous.
Merci. Alors un conseil pratique pour terminer, un conseil Very Good Vibes à mettre en application tout de suite, quelque chose de très concret pour aider nos auditeurs, nos spectateurs à avancer avec la pêche et l'optimisme.
Ben, un truc que j'ai absolument pas inventé, mais que je pratique de manière hyper rigoureuse, c'est 3 kiffs par jour. Moi, je pense que... Non, mais vraiment.
C'est-à-dire, vous les notez ?
Je les note pas, parce que je suis pas assez sérieux pour ça, mais c'est vrai qu'on parlait du petit rituel du matin avec le café, ça peut être... Moi, je marche beaucoup, j'adore, voilà, vous me faites marcher 20 minutes entre deux rendez-vous, le nez en l'air, à regarder des trucs, ça y est, c'est... Voilà, si j'arrive à me faire 3 kiffs par jour, un verre de Bordeaux le soir, chez moi... Non, mais, voilà, un bisou des enfants, enfin, 3 trucs... Vraiment, où je me dis, tiens, ce moment-là est un moment magique, ça roule, quoi. En gros, voilà. Mais ça, je le fais avec beaucoup de... Me faire plaisir est un sujet extrêmement sérieux dans ma vie.
J'adore. Merci beaucoup pour la recette, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission.